Le journal Xavier Demagny, bonjour Xavier.
Bonjour à toutes et à tous. Les Bleus sur le grill de Budapest, la France affronte la Hongrie cet après-midi. Phase de groupe de l'Euro de football, il va falloir supporter l'étouffante chaleur qui règne aujourd'hui dans la ville. Mais les hommes de Deschamps sont à la hauteur, pas d'inquiétude, nous dira Arsène Wenger.
On est tellement au-dessus, la différence est énorme.
Ah, attention quand même à l'excès de confiance. Deux violents affrontements en Bretagne, une rave party illégale qui tourne mal, 1500 personnes à évacuer. Un jeune homme à la main arrachée, 5 gendarmes blessés, nous serons sur place. Nous irons aussi à Téhéran, l'Iran, un nouveau président élu sans surprise, l'ultra-conservateur Ebrahim Raisi. À la une également, les données de 120 000 chômeurs volés par des cyberpirates à Pôle emploi. L'Office national des forêts qui prévoit près de 500 suppressions de postes en 5 ans. Et un best-of de Noël Gallagher, presque sans oasis. Comme chaque samedi, le journal de bord de Thomas Pesquet, vers 13h15, au terme d'une semaine compliquée pour l'astronaute. À 13h20, Secret d'info, ce sera avec vous, Jacques Monin. Quel est le programme ?
Eh bien, une enquête sur les influenceurs qui monnaient leur notoriété sur les réseaux sociaux en faisant la promotion de produits, d'hôtels ou de voyages. Ils sont de plus en plus nombreux et ils pratiquent un mélange des genres qui pose question.
Et puis la météo de cet après-midi, des orages, des rafales de vent, de la pluie, prudence, vigilance orange sur 41 départements et forte chaleur à l'est jusqu'à 36 degrés en Isère.
France Inter.
France-Hongrie, dans 2 heures, phase de groupe de l'Euro de football et les Bleus gonflés à bloc après la victoire contre l'Allemagne. Objectif 8e de finale pour l'équipe de Didier Deschamps. Le jeu est là, le niveau aussi. Mais bonjour Cédric Guillou.
Bonjour Xavier.
En direct de Budapest, il va falloir supporter une chaleur étouffante et un soleil de plomb. Plus de 37 degrés ressentis cet après-midi sur la pelouse, Cédric.
Oui, exactement. C'est la seule fois, Xavier, où les Bleus vont jouer en plein milieu d'après-midi durant 7 euros. Et je peux vous dire qu'ils sont servis avec un franc soleil qui baigne le terrain de Budapest. Les tribunes sont un petit peu à l'abri, mais pas le terrain. Et forcément, ça va avoir beaucoup d'influence sur le jeu, sur la qualité du match, parce que c'est une chaleur suffocante qui va gêner les joueurs, qui vont devoir gérer leurs efforts, économiser leurs forces. Alors le match ne sera sans doute pas aussi spectaculaire que le France-Allemagne de mercredi, mais on a quand même hâte d'y être parce qu'on a envie de voir si l'équipe de France va confirmer sa belle performance de mercredi, et on a aussi envie de voir ce stade plein ici, ces supporters qui chantent, qui encouragent leur équipe, puisqu'ici à Budapest, eh bien le stade peut être rempli à 100%. C'est à la base une décision, une validation du gouvernement hongrois. C'est le seul stade de l'Euro dans ce cas, et du coup 55 000 personnes seront présentes tout à l'heure au stade Ferenc Puskás, du nom du plus grand joueur de football que la Hongrie ait connu. C'est excitant, même pour les supporters français. Écoutez Florent, l'un des 4000 supporters des Bleus présents aujourd'hui à Budapest.
Ça va faire tout drôle pour les joueurs déjà d'entendre du bruit, autant de bruit depuis très longtemps, un an et demi qu'ils n'ont pas entendu 60 000 personnes chanter pour eux. Et ouais, c'est difficile pour les conditions climatiques aussi, ça va être très chaud. La Hongrie à domicile, mais on a tellement une belle équipe que ça va le faire.
Voilà, ils pensent que ça va le faire, Florent. Les Bleus qui sont déjà en très bonne position dans ce groupe F après leur victoire mardi contre l'Allemagne. Un deuxième succès leur permettrait de se qualifier, vous le disiez Xavier, pour les huitièmes de finale de 7 euros en étant sûr de terminer soit premier, soit deuxième du groupe.
Cédric Guillou avec Fred Kérou pour la liaison avec Budapest. Pensez-vous aussi à bien vous hydrater. Il faudra donc supporter la chaleur et la ferveur des supporters hongrois. Presque les seuls obstacles pour les Bleus, à en croire Arsène Wenger, ancien entraîneur d'Arsenal, très, très, très confiant.
C'est une entame réussie, on a retrouvé un état d'esprit de solidarité. Et puis, on est tellement au-dessus des autres que même face à une assez bonne équipe d'Allemagne, on est tellement au-dessus. La différence est énorme, d'abord individuellement. Et puis, si vous voulez, le football se résume aujourd'hui en 3 phases. Soit vous jouez contre 10 joueurs dans l'autre moitié de terrain, soit vous récupérez la balle et vous êtes en position de contre-attaque, ou soit vous pouvez marquer sur coup de pied arrêté. Mais sur les deux premières formes, c'est-à-dire que à chaque fois qu'on récupère la balle dans les phases d'accélération, de transition, on est tellement plus rapide qu'au bout d'une heure, l'adversaire ne peut plus suivre.
Bon, attention à la grosse tête quand même. C'était Arsène Wenger interrogé ce matin sur France Info. L'Euro de foot, c'est également cet après-midi Portugal, Allemagne à 18h et Espagne, Pologne à 21h. Il n'y a pas que le foot dans la ville, il y a aussi du rugby aujourd'hui, l'autre demi-finale du top 14. Toulouse contre Bordeaux-Bègles, c'est ce soir la finale. On sait déjà qu'elle se jouera face à La Rochelle. C'est une première après la victoire historique des Rochelais hier contre le Racing 92. Des matchs qui se jouent avec plus ou moins de public, 5000 spectateurs hier par exemple à La Rochelle avec présentation d'un pass sanitaire et le retour à une vie de plus en plus normale, moins de masques, bientôt fini le couvre-feu, plus de loisirs et de sorties, mais aussi quelques débordements. Ces jours-ci, dernier en date en Bretagne, la soirée et la nuit ont dégénéré à Redon près de Vannes, affrontement violent avec les forces de l'ordre qui tentaient de disperser environ 1500 personnes réunies pour une rave party. Bilan des courses, un jeune homme de 22 ans très gravement touché, la main arrachée, 5 gendarmes également blessés et 6 personnes interpellées. Sur place, Timur Özturk, France Bleu Armorique.
Ils sont toujours environ 1500 festivaliers en ce moment à Redon, dans une zone marécageuse près d'une rivière. C'est un terrain immense et en partie boisé où les forces de l'ordre ont du mal à intervenir. 350 gendarmes qui contrôlent les accès avec plusieurs barrages. Les pompiers de leur côté ont installé un poste de secours car la situation est très tendue. La gendarmerie déplore un très haut niveau de violence, des festivaliers revendicatifs prêts à l'affrontement. Cette nuit, ces affrontements ont duré 7 heures sans interruption avec des festivaliers pour certains armés de cocktails Molotov, de boules de pétanque et de feux d'artifice. 6 ont été interpellés mais il y a eu des blessés. 5 gendarmes dont 2 ont dû être hospitalisés. Côté festivalier, au moins 2 blessés dont un a eu la main arrachée dans des circonstances indéterminées pour le moment. La gendarmerie étudie un plan d'intervention car les autorités estiment que les fêtards ne partiront pas d'eux-mêmes et ne sont pas tous en état de reprendre la route. Des groupes électrogènes ont été saisis, mais en ce milieu de journée, malgré la pression des forces de l'ordre et la pluie, on entend toujours la musique au loin.
Un homme est activement recherché dans le Doubs. Sa femme a été retrouvée morte dans son appartement de Montbéliard. Le conjoint, 41 ans, est connu de la police, mais pas pour des faits de violence conjugale. Selon des proches du couple, ce dernier aurait avoué avoir tué sa compagne. Et puis, il y a des règles quand on est sous contrôle judiciaire. Et Mimi Marchand ne les a pas respectées. Patronne de l'agence de paparazzi Best Image, elle a été placée en détention hier soir après être entrée en contact avec certaines personnes avec lesquelles elle a pourtant l'interdiction de communiquer. Mimi Marchand est mise en examen dans l'enquête sur les soupçons de financement libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy lors de la présidentielle de 2007.
France Inter, le journal de 13h. Xavier Demani.
Sans surprise, l'ultra-conservateur iranien Ebrahim Raisi, élu en Iran. Il était le grand favori du scrutin. Nouveau président, élu à 62%, mais avec près de 15% de bulletins blancs. Bonjour Franck Madvon.
Bonjour.
Envoyé spécial d'Inter à Téhéran, un score ni trop élevé ni trop bas, mais une marge confortable pour Raisi donc.
Oui, le plan s'est déroulé en fait comme les autorités l'avaient imaginé. D'abord la sélection des candidats, les principaux réformateurs avaient été écartés de la course. Puis Ebrahim Raisi a été mis en avant par les autorités et le résultat est donc tombé. 62% des voix, vous l'avez dit, Raisi devance largement ses concurrents. 11% pour le second Mohsen Rezaei, autre ultra-conservateur, et 8% pour le seul réformateur en lice, Abdel Nasser Emati. Le système iranien a tout mis en œuvre pour que l'électorat conservateur se mobilise. La participation devrait dépasser les 50%. C'est faible pour une présidentielle, mais c'est acceptable. Une grande partie des Iraniens contestent toutefois cette élection. Ils déplorent le tri des candidats et redoutent les années Raisi.
Franck, un président ultra-conservateur en Iran, qu'est-ce qu'on peut en attendre?
Alors avec Raisi à la présidence, le système a choisi un homme fidèle aux valeurs de la République islamique et au guide suprême Ali Khamenei. On peut donc s'attendre à des libertés restreintes, à un contrôle plus strict des réseaux sociaux et de toute forme de contestation. Raisi devrait tenir un discours dur avec l'Occident. Il fera sans doute peu de concessions sur les missiles de l'Iran ou sur ses ambitions régionales. Mais l'Iran a d'abord besoin de rétablir son économie durement frappée par les sanctions américaines. Il est donc peu probable que le prochain gouvernement renonce à un accord avec Washington. Des négociations sont en cours à Vienne. Ebrahim Raisi en a besoin pour que l'économie iranienne respire à nouveau et pour présenter un bilan positif et prétendre peut-être à la succession du guide.
Franck Madvon en direct de Téhéran avec Fabien Gosset pour les moyens techniques. Merci à vous deux. À l'étranger, sur le front du coronavirus, record de contamination à Moscou, en Russie, plus de 9000 nouveaux cas en 24 heures, très certainement liés au variant Delta apparu en Inde. depuis la capitale mexicaine. Mexico rebascule en état d'alerte, nouvelle hausse des contaminations, après pourtant une forte chute ces dernières semaines. Retour en France avec ce phénomène qui ne nous surprend presque plus, les cyberattaques qui se multiplient ces derniers mois. Cette fois, c'est un vol de données chez Pôle emploi, une fuite qui concerne 120 000 chômeurs, Fabien Cazot.
Ce sont les noms, prénoms, coordonnées postales, téléphoniques et mails qui ont été divulgués, pas les informations de paiement, en revanche, ni les numéros de sécurité sociale. Des investigations sont encore en cours, menées par l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. Selon les premiers éléments de l'enquête, il ne s'agirait pas d'une cyberattaque à grande échelle, mais plutôt d'un acte de piraterie informatique imputable à des agissements individuels. Pôle emploi a d'ores et déjà prévenu les demandeurs d'emploi concernés, du moins ceux qui pour l'instant ont pu être identifiés. Aucun risque pour l'indemnisation, souligne l'opérateur public, ni pour accéder à son espace personnel sur le site de Pôle emploi. Tout doit passer par là, insiste l'organisme, qu'il s'agisse d'offres d'emploi ou d'actualisation de droits. Surtout ne pas répondre aux mails venant d'autres sites ou à toutes sortes de SMS qui ne peuvent être que frauduleux.
Fabien Cazot, service éco de France Inter. Peut-on entretenir correctement nos forêts publiques avec moins de moyens? L'Office national des forêts prévoit de supprimer près de 500 postes sur un peu plus de 8400 dans les 5 ans à venir. Pas de plan social, simplement des départs non remplacés car l'ONF est très endetté. Ce n'est pas acceptable pour la Fédération nationale des communes forestières qui craint de voir les services de l'office baisser et les frais des petites communes augmenter. Son président Dominique Jarlier.
Ce qu'il nous est proposé, c'est moins de moyens, moins de personnel. C'est quasiment un doublement des frais de garderie, ce qui est un peu astronomique en termes d'augmentation. La présence sur le terrain, on voit qu'il y a des postes qui sont manquants, où il y a des gens qui ne sont pas au boulot parce qu'ils ils sont infectés ailleurs. Les gens qui sont à la partie à la retraite n'ont pas été remplacés. Alors, moi, je ne suis pas contre une réflexion de la distribution correcte des postes de travail, mais on ajuste bien les missions et les moyens. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'à l'Office, il y a des tas de missions qui ne figurent dans aucun programme officiel, donc biodiversité, enfin, je dis, c'est des missions qui ne sont pas sans intérêt, loin de là, mais pour lesquelles les moyens financiers n'ont pas été donnés à l'établissement. Et alors, la seule recours qu'on a pour essayer d'équilibrer les comptes, c'est en gros de quasiment doubler les frais de garderie des communes. Les financements ne peuvent pas être pris sur la récolte de bois et sur les budgets des communes, c'est pas possible, quoi.
Les forêts communales qui représentent 2/3 de la forêt publique en France, Dominique Jarlier, interrogé par Béatrice Duguet. L'impact du télétravail va se ressentir encore longtemps sur les transports en Île-de-France. Si la fréquentation remonte progressivement, elle est toutefois encore inférieure à l'avant-Covid, indique la patronne de la RATP sur Inter. Catherine Guillouard était ce matin l'invitée dont n'arrête pas les coups.
En semaine, les 2/3 du réseau ferré ont récupéré le trafic anti-Covid. Sur le réseau de surface, on est d'ores et déjà en semaine aux 3/4. Du trafic que nous avions normalement avant la pandémie. Et en week-end, on est à 90%. Donc ça remonte progressivement, avec un décalage. On voit bien que le télétravail est encore très présent, hein, puisque notre trafic est presque plus faible en semaine que le week-end. Et on pense que le télétravail peut avoir effectivement un impact. Ça dépendra de ce que les entreprises vont décider de mettre en place. Il faut savoir que le télétravail a été multiplié par 2,6 fois durant l'année dernière. C'est-à-dire qu'on est passé en gros d'un jour à 3 jours de télétravail. Et nous, ce que nous avons modélisé, c'est à peu près 2 jours en moyenne de télétravail pour tout le monde. Et ça pourrait avoir un impact de moins 5 ou moins 7%.
Catherine Guillouard, PDG de la RATP sur les transports parisiens avec Alexandra Ben Saïd. En bref, le CSA rappelle à l'ordre Europe 1 et sa maison mère Lagardère. La transformation annoncée du groupe en société anonyme est un changement majeur pour lequel il faut obtenir le feu vert du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Alerte qui intervient en pleine crise à Europe 1 qui prévoit des rapprochements, notamment avec CNews, la chaîne de Vincent Bolloré. Ce week-end, pour la première fois dans l'histoire de la radio, les salariés ont décidé de se mettre en grève jusqu'à lundi, 13h14 sur Inter. 4, 3, 2, 1, lift off. Quelques minutes dans l'espace, à présent 400 km au-dessus de nos têtes, c'est Mission Alpha, le journal de bord de Thomas Pesquet. Chaque samedi dans ce journal de 13h, une semaine difficile s'achève pour l'astronaute français après une sortie extra-véhiculaire compliquée. Il devait, avec son collègue Shane Kimbrough, installer un nouveau panneau solaire sur la Station Spatiale Internationale. Mais tout ne s'est pas passé comme prévu, Sophie Becherel.
Non, en effet, une première sortie intense pour le duo franco-américain qui devait installer le premier des deux nouveaux panneaux solaires. des panneaux déroulants mais repliés en deux parties. Il fallait d'abord porter manuellement ces énormes rouleaux à l'extrémité bâbord de la station avant de les fixer et de les dérouler. Après une alerte sur le scaphandre de l'Américain qui a fait perdre une heure, des problèmes mécaniques sont apparus au moment de fixer le panneau. Il n'est donc toujours pas opérationnel et la NASA n'exclut pas qu'il faille une troisième sortie après celle de demain pour achever le travail. En attendant, Thomas Pesquet nous raconte ses 7h15 dans le vide spatial.
On n'a pas pu faire tout le programme prévu parce que ça ne s'est pas passé exactement comme on l'avait préparé, mais c'est comme ça. Alors déjà, c'était quand même un peu extrême. Enfin, moi, j'avais déjà fait 2 IVM et celle-là, elle était un cran au-dessus quand même en termes de complexité et puis de peut-être de risque, enfin je sais pas, mais du moins le sentiment de risque, c'est-à-dire d'être suspendu par les pieds en tenant ce truc qui fait la taille de 2 frigos au-dessus du vide, c'est pas une sensation. Enfin, faut s'habituer un petit peu au début. On vérifie 10 fois que ses talons sont bien engagés dans le système qui nous maintient sur le bras robotique, parce qu'il y a que ça en fait. Et puis ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de jeux mécaniques. Hein. C'est pas comme si c'était très 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 fixe. On a quand même l'impression que ça balance pas mal. Voilà, parce que le plus difficile, c'est de déplacer cette masse. C'est une masse de 350 kilos. Alors évidemment, elle pèse pas son poids, mais elle a de l'inertie. Ça veut dire que dès qu'on la lance dans un sens, qu'on lui donne un tout petit mouvement, c'est très difficile de l'arrêter. Donc ça demande de tout le temps en permanence la maintenir le plus fixe possible, donc c'est beaucoup beaucoup d'efforts physiques. Et puis on avait pas vraiment conscience, enfin les équipes au sol étaient pas au courant de ça, nous non plus, que ça allait être difficile mécaniquement. Alors en gros on avait une espèce de système qui devait s'engager dans une fente qui était sur le panneau solaire et le maintenir en place, et ça s'engageait pas du tout, ça tombait complètement à côté. Donc on va changer l'angle avec lequel on le fait, on va changer les techniques et on va espérer qu'on y arrive pendant la prochaine. C'est ça qui est intéressant, c'est de résoudre les problèmes.
Dans quel état êtes-vous rentré ?
On a fini assez fatigué, on a évidemment un peu mal aux mains, un peu mal au dos, un peu mal partout, on est un peu moulu après une sortie en scaphandre, parce qu'on passe le temps à se battre contre le scaphandre, c'est comme une armure, du métal qui nous frotte un peu sur toutes les parties du corps, donc on a des petites brûlures, des petits bleus, des choses comme ça. Mais c'est sûr que la nuit d'après a été assez réconfortante. Ouais. On s'est mis au lit assez tôt ce soir-là.
Dans ce cas-là, quel est le rôle des coéquipiers ?
Alors déjà, les coéquipiers ont été vraiment super, enfin, depuis le matin à 5h, où ils ont vraiment fait le maximum pour nous mettre dans les meilleures conditions pour sortir, pour nous ramener à l'intérieur de la station. Au retour, on avait tout, ils nous avaient préparé des boissons fraîches, nos collègues russes nous avaient fait du thé chaud. Il y a un plat russe que j'adore, c'est du mouton en fait. Et Oleg m'avait réchauffé un plat de mouton qu'il avait mis avec le thé chaud dans une espèce de chaussette thermique. Et la même pour Chen, on avait chacun notre chaussette, c'était un peu Noël, donc on avait chacun notre nourriture spéciale. Voilà, c'était très sympa, et puis on s'est évidemment raconté tout ce qui s'est passé, leur version, eux qui étaient aux commandes du bras robotique ou qui regardaient, ils nous ont montré les photos qu'ils ont prises, on a raconté évidemment ce qu'on a ressenti. Voilà, donc tout ça ensuite on le débrief une fois rentré à l'intérieur de la station, bien sûr.
Bon, le samedi c'est jour de ménage dans l'ISS, en quoi ça consiste ?
Il y a vraiment deux opérations un peu distinctes. La première c'est aspirer. On aspire un peu toutes les parois qui sont exposées, mais surtout les retours de ventilation. En fait, la ventilation elle est forcée à l'intérieur de l'ISS, donc évidemment on met beaucoup de filtres pour capter toute la poussière, justement capter toutes les impuretés, capter toutes, je sais pas, les mauvaises odeurs, tout ce qu'on veut bien. Donc ces filtres se salissent énormément, donc tous les samedis la première chose à faire c'est tout aspirer, et la deuxième chose à faire c'est frotter. On a des lingettes désinfectantes en fait, et on frotte tout ce qu'on touche beaucoup en fait, c'est-à-dire toutes les poignées qui nous servent à nous déplacer, les ordinateurs, les micros qu'on utilise pour parler avec le centre de contrôle, les machines de sport évidemment, tout ce qu'on peut être amené à toucher régulièrement, faut le briquet. Voilà, et chacun fait ses 2 modules. Évidemment, celui qui tire le gros lot, il se retrouve avec le module où il y a à la fois le tapis roulant, la machine de musculation et les toilettes. Là, c'est beaucoup de boulot. Mais bon, c'est comme ça, c'est chacun son tour.
Voilà. Thomas Pesquet, lui aussi, fait le ménage le week-end. Son carnet de bord, 6 mois dans la Station Spatiale Internationale, à suivre chaque semaine sur franceinter.fr. Le podcast Olma pour les enfants, c'est sur l'application Radio France. Retour sur Terre où il y a toujours un frère Gallagher dans l'actualité musicale. Cette fois, c'est Noël, l'aîné, qui sort un best-of de ses années solo, 10 ans après la séparation du groupe Oasis. Et c'est la prescription culturelle d'Inter, ce midi, signé Mathieu Culeron.
Parolier et mélodiste historique d'Oasis, Noël Gallagher se forge une culture musicale seule, et ses héros viennent essentiellement de sa ville, Manchester.
Au départ, je ne viens pas d'une famille de musiciens. Je ne sais donc pas d'où viennent mes talents de mélodiste. Mais ado, mes influences, c'était Paul Weller, Morrissey, Johnny Marr, des Smiths, les Stone Roses, Sean Ryder, des Happy Mondays, les Beatles, les Stones, Bob Dylan, Neil Young.
Stones, Bob Dylan, Neil Young.
C'est en invitant son frère Liam dans son groupe qu'Oasis voit le jour. La formation ayant explosé, il était naturel d'utiliser ses talents pour son propre compte.
Live Forever est la première chanson géniale que j'ai écrite. Je pense qu'Oasis aurait dû aller dans cette direction. Je ne me suis jamais assis en me disant « mais quel génie je fais !» Non, je pense toujours à ce qui va arriver après. Pour moi, c'est toujours la dernière chanson la meilleure.
10 ans de carrière solo lui ont permis de ne plus penser à son ancien groupe. Malgré tout, certains titres en solo de Noel Gallagher auraient pu devenir des titres d'Oasis.
Je crois que 6 titres sur ce best-of auraient pu devenir des chansons d'Oasis. Le reste, certainement pas.
By the Way We Came, premier volume du best-of de Noel Gallagher, résumé de la carrière en solo du vrai compositeur d'Oasis.
Il y a quand même un air. Mathieu Culeron pour ce conseil musical.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobile, utilitaire, poids lourd, Euromaster garantit la sécurité et la mobilité des conducteurs.
Le Rhône toujours en alerte canicule et pour les orages, vigilance orange étendue à 41 départements. Bref, le ciel se charge cet après-midi, Jean-Michel Golinski.
Une journée placée sous le signe d'une ambiance électrique, orageuse, ponctuée de fortes précipitations, de grêle et de bourrasques à 100 km/h avec un total de 41 départements placés en vigilance orange en raison des phénomènes violents prévus. Alors sur le Limousin, l'Auvergne, dans la zone comprise entre la Basse-Normandie, le centre, de la Bourgogne à la frontière luxembourgeoise et au nord de la Seine. Dans un premier temps, dans un mouvement nord-sud, des orages forts vont éclater cet après-midi et ce soir entre les Pyrénées, le centre Val-de-Loire, le bassin parisien, la Normandie et la Belgique. La nuit prochaine, ils vont gagner vers l'Auvergne, l'Alsace et la Franche-Comté, en restant violents puisqu'il va faire très chaud cet après-midi à l'est, entre 32 et 34 en général, jusqu'à 36 degrés sur l'Isère. Le département du Rhône est maintenu en vigilance orange canicule, mais en allant vers l'ouest, après les orages, les valeurs vont baisser sensiblement.
Jean-Michel Golinski de Météo France.